Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, Bretagne 5, la plume est à vous, Michel Philippot. Un plaisir de vous retrouver ce soir avec une nouvelle de Gérard Glatt, où il est question d'amour filial, de sans-abri et de générosité, le tout conjugué avec brio sur le mode « dites-le avec des fleurs », en deux récits qui alternent, qui se font écho, mêlant tour à tour la fraîcheur de l'enfance à la rudesse de la rue. Gérard Glatt est un auteur accompli qui a publié son premier roman en 1977 chez Calman Levy et son tout dernier roman, « Tête de paille », est paru, lui, en 2020, aux éditions Ramsay. Il sera d'ailleurs l'invité de Page Blanche en avril prochain, ne le manquez surtout pas. En attendant, il nous a aimablement confié cette nouvelle inédite intitulée « 1,90 €» que je vous invite à découvrir sans plus attendre. Regardez-le. Quel âge a-t-il ? Peut-être 8 ou 9 ans ? Regardez-le bondir, sauter comme un cabri. Oh, c'est qu'en comptant, en recomptant l'argent que la boulangère lui a rendu, il a découvert les 20 cents. Lui, il parle de centimes comme sa mère, comme tout le monde à la maison. Les 20 cents qui lui manquaient tout à l'heure. 20 cents, 20 cents. Pour cette fleur innommée qu'il a trouvée si belle hier matin lorsqu'il est passé devant la boutique de chez Madame Ophélie. Ophélie fleur, comme ça, en lettres penchées, juste au-dessus de la boutique. Regardez-le comme il s'élance, comme il galope. Oh, ce soir, maintenant, il le sait. Il en a l'assurance, elle sera contente, sa mère. Lui, il dit « Maman ». Et dans sa tête, les lettres sont penchées et elles brillent comme de l'or, tout comme celle de Madame Ophélie. Ophélie fleur, au-dessus de sa boutique. Sa maman, elle sera contente. Elle le prendra dans ses bras, le soulèvera très haut, jusqu'au plafond de la maison, car ce sera grâce à lui. Il en rêve depuis si longtemps. De cet instant d'amour. Sous le nez de Gambetta, enfin presque sous son nez, une forme monstrueuse taillée dans le roc, bien éloignée de la Giovanna Gassion, de la place Édith Piaf. Sous son nez donc, et ce bras tendu qui dit le blâme ou n'importe quoi d'autre. Eh bien, le couvercle d'une poubelle, côté rue de la Chine, s'agite étrangement. Il se soulève de quelques centimètres et puis paraît hésiter. Puis il retombe soudain et se soulève à nouveau, comme animé de convulsions incontrôlables. Un homme, plutôt gris par la couleur, non par l'alcool qu'il a absorbé. Un homme d'une cinquantaine d'années, dirons-nous, au poil hirsute, pas rasé depuis un mois, peut-être deux. Et aux vêtements élimés, souillés, troués, au rond des fesses, et qu'un chien aux oreilles tombantes, aussi crotté que lui, accompagne. Il s'en approche de la poubelle, l'air de rien, tandis que dans leur sillage, comme des miettes, s'éparpille un bouquet de fromage avancé auquel se mêlent adroitement divers arômes de plantes médicinales ramassées au fil des jours. Oh, il y en a plein sur les trottoirs, souvent au pied des arbres qui copinent avec les étrons de la misère. Eh oui, c'est ainsi. Mystère, mystère. Peut-être sont-ce là les nouveaux mystères de Paris. Qui sait ? L'homme, en tout cas, ne s'interroge pas là-dessus. Plus pragmatique, ce qui l'intrigue, c'est le couvercle de la poubelle et les grincements que produisent ces sautes d'humeur. Alors, sans trop réfléchir, comme il n'aura plus rien à faire de toute la sainte journée, hormis traîner son temps dans les rues du quartier, voire dans les avenues ou chemins du cimetière avoisinant. C'est qu'il a déjà pointé à Pôle emploi, comme chaque matin depuis 11 mois. Ah, autrefois c'était la NPE. On disait toujours « je vais à la NPE ». Il préférait, mais bon, il a fini par s'habituer. Alors que fait-il ? Il s'approche de la poubelle, de plus en plus intrigué. Et comme Gambetta, bientôt, il tend le bras, il le tend vers le bas. Tandis que l'autre, Gambetta, pour l'éternité, le tend vers le haut, sans fatigue apparente. Il s'en approche, le bras tendu, déjà sur le point de saisir la poignée du couvercle, vers sombre, comme la poubelle, toujours animé de soubresauts désordonnés. Sur le point de saisir la poignée, oui. Quel con de vie je mène, dit-il à cet instant. Mais quelle vie de con ! Pas vrai, mon chien ? Lorsque surgit de la poubelle, vif argent, tel un éclair, une bestiole hideuse, un rat, oui, un rat, au pelage lisse et gluant. Une bestiole apeurée, surprise en son dîner, qui bondit sur l'homme plutôt gris. Interdite une seconde, celui-ci s'ébroue, bientôt comme fait son chien, justement au sortir d'un plan d'eau. Il secoue tout son torse, son corps, et sa tête, et ses bras, qu'il a nus. Mais déjà, le rat détale, comme aveugle. Il écrase son museau sur une autre poubelle, puis encore sur une autre. Sa queue serpentine siffle si vivement dans l'air qu'on dirait une lanière de fouet. Lui-même chicote ou couine, c'est selon. Enfin, sans demander son reste, il disparaît dans la première bouche d'égout qui se présente à lui. Et le calme, rue de la Chine, se réinstalle aussi vite qu'il s'était dissipé, indifférent à l'effroi dont le regard de l'homme demeure tout rempli. C'est qu'un sang épais, si sombre qu'il en est noir, coule le long de son bras droit labouré de griffures, et coule encore jusque dans la pliure du coude, puis dans le creux de sa main. Et c'est comme si la vie, cette immonde garce à laquelle hier matin, puis hier soir, comme tous les jours, le matin, puis le soir, l'homme disait ne plus tenir, comme si elle reprenait alors tout son sens. Pour autant qu'elle en est un, de sens, soupire-t-il. Assise à ses pieds, son chien le regarde. Il a la gueule ouverte, la langue qui pend. Il a soif. En silence, il réclame. Oh, t'es un brave toutou, reprend l'homme gris, qui lui gratte le dessus du crâne, entre les oreilles. T'as eu peur, hein, toi aussi. Tiens, lèche donc ça. Il lui montre son sein. En attendant, ah ça, pour être heureux, le gamin, il est heureux. Quel âge il a ? 8 ou 9 ans ? Ah, on l'a déjà dit. Celui de l'innocence, il est content. Ses yeux pétillent et il compte et il recompte ses pièces. l'une après l'autre. Il les lance en l'air et les rattrape au vol comme s'il jouait avec des osselets. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on joue encore aux osselets? Il les rattrape en chantant ces pièces. 5 centimes, 2 centimes, 50 centimes. La pièce la plus lourde, 1 euro, la plus délicate d'entre elles, celle qui brille et teinte le mieux sur le carrelage de la salle de bain, parce que c'est là qu'il s'est installé quand il est rentré, sa baguette à la main. Ah ça, pour être heureux, il l'est. Le roi n'est pas son cousin, comme on dit. Ah ça non, le roi. Mais la plus précieuse, c'est la pièce de 20 cents, pardon, de 20 centimes, que la boulangère lui a rendue tout à l'heure. La pièce de tous les bonheurs, dont les festons scintillent à la lumière comme de l'or. Celle qui lui manquait, aussi ronde, aussi brillante qu'une fosse, et qui va lui permettre de pouvoir enfin acheter son cadeau, cette fleur qu'il désire tant offrir à sa maman, sa chère maman, pour 1 euro et 90 centimes. « Un rudbeckia ?» lui a demandé Madame Ophélie. « Alors, mon garçon, ça te coûtera 1,90 €. » C'est ce que Madame Ophélie de la boutique Ophélie Fleur, la plus belle des boutiques, la plus colorée, celle devant laquelle ne se pressent pas seulement les vieilles gens. C'est ce que Madame Ophélie lui a répondu quand il lui a demandé combien il devrait lui donner pour en avoir un. Tout pareil que celui qu'il lui montrait. Ce rudbeckia joliment corseté, qu'un fil de fer retient bien droit, au cœur orangé comme une flamme, qu'il offrira à sa maman bientôt, tout bientôt. Une fleur, un feu qui brûle, qui ensorcelle, qui intimide le soleil tant elle rayonne. Qui lui rappelle les mamelons de sa maman, leur moiteur quand, juché sur ses genoux, il y enfouit brusquement le visage et les respire à travers l'épaisseur de la soie qui les lui dérobe. Cependant, l'homme s'est assis sur le trottoir, à l'écart du grand Gambetta, des fois qu'il lui fasse ombrage. Sur sa jambe gauche, la tête de son chien. Sur le carton qu'il tient à la main, il a écrit au feutre vert que son chien et lui ont faim, mais qu'il n'a plus rien pour acheter à manger. Il avait écrit pour manger et boire, mais il a rayé pour boire, parce que les gens, bien souvent, trop souvent, s'imagine des choses. Par exemple que boire, ce peut être essentiellement boire de l'alcool, du vin, du calva, enfin, des liquides de ce genre qui vous brûlent l'estomac, surtout quand il est vide. Ce qu'il a écrit, c'est donc qu'il n'a plus que la charité des passants pour vivre encore un peu. Seulement, tandis que son carton n'en finit pas de trembler, il voit bien que les passants se font rares. Sûrement, c'est l'été qui veut ça. À cette époque, la capitale, selon le système éprouvé des vases communicants, a déjà commencé à se vider au profit des plages. Et de la montagne aussi, qui depuis quelques années s'est fait des adeptes, nonobstant l'absence de neige. Ouais, rumine l'homme, dont le pantalon s'abreuve à peu de frais de la bave de son chien. Les gens se font rares. Mais peut-être est-ce tout bonnement parce qu'il n'a pas choisi de façon judicieuse son emplacement. Alors va-t-il se déranger de quelques mètres? Il hésite. Ne désespère pas, l'œil toujours fixé sur le mouchoir qu'il a déposé devant lui proprement. Un mouchoir qui ne sert qu'à ça, étalé tout exprès pour recevoir des pièces. Un carré de coton comme dans le temps, avec des lignes rouges, ou plutôt bordeaux, tissé sur le pourtour. Oui, pourquoi désespérer? D'autant plus qu'il a le sentiment que la vieille femme, au pas menu qui avance dans sa direction, ne passera pas sans s'arrêter devant lui. Dommage qu'il n'ait personne avec qui parier. Dommage parce que oui, elle s'arrête devant lui, qui n'ose lever la tête et se retient maintenant de respirer trop bruyamment. Plus âgée encore, cette femme, certainement, qu'il se l'imaginait la voyant s'approcher. Des chevilles gonflées que couvrent, malgré la touffeur de ces derniers jours, des bas bigrement épais. Et des souliers de maigre qualité. « Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fout là ?» gronde intérieurement le bonhomme. « Elle ne va tout de même pas se ruiner pour moi. » Déjà qu'elle ne doit pas avoir bien gras dans ses poches. Il lui dirait bien de s'éloigner, mais ce qu'il retient, c'est ce qu'il entend. Ce bruit de mitraille si caractéristique. La chasser de devant mon ombre alors qu'elle fouille dans son porte-monnaie, murmure l'homme à part soi. Non, pas vraiment, toutou. Mieux vaut la laisser chercher. Le chien opine. Il ouvre la gueule et laisse pendre une langue toute rose coincée entre ses crocs. De quelle couleur est-ce qu'elle sera, la pièce? Jaune? De 10? De 20? De 50 centimes? Ou bien couronnée d'argent comme les pièces d'un ou de 2 euros? L'homme esquisse une grimace. Non, ce sera une pièce jaune. Peut-être de 10 centimes seulement. Vu l'état de la robe, tachée dans le bas, et de son ourlet davantage arraché que décousu, ça n'aurait rien d'étonnant. Alors, l'affaire est entendue. L'homme ferme les yeux, la tête toujours penchée en avant, le nez plongeant vers le bitume, la lip amère, et il attend. Il attend que cette pièce de 10 centimes dégringole jusque sur son mouchoir. Il attend, tout en se disant, c'est plus fort que lui, qu'il en tombera peut-être 2. Pourquoi pas 3, le rêve. Quand il soulève enfin les paupières et lève à peine la tête, rien n'est encore tombé. Il a entendu le porte-monnaie se refermer. Il a cru le voir disparaître dans le sac de la femme dont les chaussures sont toujours sous son nez et toujours enfilées dedans, des pieds enflés, emmailletés de sombre qui font mal à regarder, ainsi que l'ourlet de la robe qui pendouille. Cet ourlet qui s'agite et qui se froisse. Et ses chaussures qui, dans le même temps, comme un visage lassé d'en scruter un autre, se détourne lentement, doucement, à la vitesse hésitante d'un train qui s'ébranle au sortir d'un quai de gare. Des chaussures qui s'éloignent et se traînent et emmènent avec elles la vieille femme, de force, on dirait. Comme la raison l'emporte parfois sur l'envie, avant qu'elle n'ait lâché les pièces qu'elle tient toujours dans sa main. La main gauche, celle du cœur. Regardez-le courir, regardez-le bondir, prisonnière de ses doigts qui s'amusent avec elle. Écoutez teinter les quelques pièces. Regardez comme il s'élance et comme il passe et il repasse devant la vitrine de Madame Ophélie. Oh, une fleur parmi les fleurs et qui sent bon comme elle. Toute fière et vêtue d'un corsage où 2 seins comme 2 doux oreillers se nichent avec peine. Ah, regardez-le gambader. Écoutez comme il grelotte ses quelques sous. Et voyez-le danser, cet enfant, devant la fleur des fleurs, celle qu'il a élue, ce rudbeckia, au cœur d'or que lui tend la fleuriste à présent, émue jusqu'aux larmes de le savoir si heureux. un gamin. Un gamin ? Le regret de son existence. Tiens, tiens tes sous, lui dit-elle. Garde-les. Garde-les pour une autre fois, quand tu reviendras. Ouais, c'est un gamin comme ça qu'elle aurait voulu. Comme ça, pas autrement. Un blondinet aux yeux bleus azur. Mais le destin. Oui. Le destin. De son côté, l'homme a fini par lever le camp. C'est ce qu'il avait de mieux à faire. C'est aussi ce qu'ils se sont dit, lui et son chien, après avoir longuement réfléchi. Il a rejoint un collègue de misère, pas vraiment un ami, mais pas désagréable non plus, et qui surtout, par ces temps de forte chaleur, reste encore respirable. Une fois assise à son côté, dans ce mini-square de la place Gambetta, qui fait face à la mairie du 20e. Il y a là quelques ombrages, des touffes de chiendons et des arbres pelés, et parfois un air léger qui vous frôle le visage, bien agréable malgré la température élevée. Le chien a repris sa place sur la cuisse de son maître et, tout comme lui, bien que la faim lui tiraille l'estomac, depuis ce matin, il n'a eu droit qu'à un quignon de pain tartiné de camembert. Il aime le camembert. Eh bien, il écoute. Il écoute l'ami leur narrer sa part de rêve. Souvent, la nuit, en dormant, dit-il, souvent, je pars en voyage. Parfois, je prends le train, je me retrouve à Rotterdam. Oh, pourquoi Rotterdam? J'en ai aucune idée. Ou bien, je prends l'avion, mais sans savoir où il m'emmène. À quoi est-ce que ça servirait? Je n'ai rien de défini en tête, on ne m'attend nulle part. Oh, c'est aussi bien comme ça. N'est-ce pas votre avis, à vous aussi? Le chien fait signe que oui. Son maître, empressé, en fait autant. Tous deux salivent. Ils attendent la suite. L'autre reprend. Une fois, j'ai atterri au Caire. Je m'imaginais à Lisbonne. Une autre fois, mais c'était un cauchemar. Je me suis réveillé à Pékin, place Tiananmen. J'avais l'impression qu'un char m'écrasait le ventre et la poitrine. J'entendais des cris, c'était à devenir sourd, à devenir fou. En fait, je dormais tout debout. J'avais pas remarqué le feu rouge. Ah, j'aurais pu y passer, mais tu te rends compte? C'était rue de Rivoli. Vers les 6 heures du soir, moi, rue de Rivoli. Tu m'imagines un peu dans ces quartiers, rue de Rivoli. Mais tu m'écoutes, oui? Le chien répond à la place de son maître, avec ses oreilles qu'il a dressées bien droites. Un autre jour, poursuit l'autre, je débarque à Mgongo, entouré de crocodiles, de pachydermes et de noirs armés de sagaies empoisonnés. Des pygmées, j'ai l'impression. Aussitôt, je ne pense qu'à une chose, me sauver vite fait. Mais voilà que le copain s'arrête à nouveau. Mais qu'est-ce que t'as là? Qu'il fait tout inquiet en s'adressant à l'homme au chien. Tu t'es battu? Dis-moi, tu t'es battu? L'homme gris hésite. Son chien aussi. Moi, c'est ce matin que ça m'est arrivé, fait-il enfin. Me crois-tu, un rat, dans une poubelle. Je l'ai dérangé en soulevant le couvercle qui m'a griffé, comme tu vois, jusqu'en haut du bras. Touche un peu. Il s'interrompt et tente un sourire. Ce devait être lorsque tu débarquais à Mgongo, remarque-t-il en plaisantant. Il s'interrompt, toujours souriant. Il n'en a pourtant pas envie. Et il ajoute « Serait fichu de m'avoir foutu une maladie, mais qu'est-ce que t'en penses ? La rage ? Pourquoi pas ?» L'autre hausse les épaules. « mais non !» qu'il répond pour rassurer son copain. « Et cette fleur sur tes genoux ?» qu'il remarque encore. « Moi, j'avais pas fait attention, tu la sors d'où ?
Un passant te l'aura offerte au lieu de quelques sous. »
L'autre hésite encore, qui pense à sa blessure, à la rage qui circule peut-être dans son sang et à bien d'autres choses encore qui le tourmentent, comme à cette fleur, un rudbeckia serré dans un papier cristal avec agrafé sur le papier l'étiquette « Ophélie fleur ».
Une connerie, qu'il se dit, de l'avoir accepté. Sûr, n'aurait pas dû. Mais c'est la faute à ce gosse, à se pavaner comme ça, avec son si joli visage et ce rudbeckia qu'il lui tendait fièrement, comme un trophée.
Ouais, on me l'a offerte.
Qu'il articule tout de même, le regard perdu devant lui, une main posée sur la tête de son chien.
Tu sais comment elle s'appelle, cette fleur ?
Murmure-t-il.
C'est un rudbeckia, une marguerite des Indes, si tu préfères.
Puis, s'inclinant vers son chien, il continue, tout bas, « Seulement pour eux deux. » Toi aussi, pas vrai? Tu penses au voyage qu'on pourrait s'offrir.
Hein, un matin, tu verras, on se retrouvera au Sénégal ou à Bangkok.
Lui et son chien se regardent, les yeux dans les yeux, tous les deux en silence. Et ils se cachent ce qu'ils ne veulent plus voir. Dans les rues de Paris, en plein juillet, au même instant, a-t-on jamais vu ça ? Une femme cherche son enfant. Elle le cherche depuis une heure, depuis deux heures, sans grand espoir de le revoir, car son cœur, qui ne la trompe jamais, comme pour lui faire plus de mal encore qu'elle n'en ressent, s'évertue à l'en convaincre. Pourtant, elle doit le retrouver. Peu importe le chemin à parcourir ou l'état dans lequel il sera, vivant, mort, ces mots qui la tyrannisent, mais dont elle ne peut se débarrasser, qui reviennent inlassables à l'intérieur d'elle-même. Vivant ou mort, mort ou vivant, mais c'est terrible d'avoir de telles pensées. Peu importe ce qu'on aura fait à son fils, ce qu'elle veut, c'est qu'on le lui rende. Son cerveau ne fonctionne plus que pour ça, qu'elle puisse le tenir dans ses bras, le bercer, le dorloter, le baigner de ses larmes. Le visage embué, penché au-dessus de lui, de son visage ensanglanté, de son corps démembré, si fragile qu'il était. Répéter son prénom à l'infini, le répéter avec amour, le retrouver à tout prix. Oui, le tenir encore dans ses bras, penché au-dessus de lui. Voilà tout ce qu'elle désire, rien de plus. Ce sera son dernier vœu. Affolée, elle fait encore deux pas, puis trois, puis quatre, et puis soudain, est-ce l'instinct d'une mère ? Elle se retourne et n'en croit pas ses yeux. « Maman !» lui crie l'enfant en s'élançant vers elle, tandis que derrière lui, aspiré par le soleil, s'enfuit l'ombre de Gambetta.
« Maman, maman, mais qu'est-ce que tu as ? »
demande-t-il encore en lui tendant les bras. Elle s'essuie les yeux, se sent stupide, ne veut pas montrer à quel point elle a eu peur. Et l'enfant lui dit « Mais maman, maman, ces pièces, elles sont pour toi. » À l'homme gris et à son chien, j'ai donné le rudbeckia. Dis maman, au moins, tu ne m'en veux pas ? » Alors, pressante, elle lui demande « De qui ? De quoi est-ce que tu parles ?» Comme l'enfant ne répond pas, la voix douce, elle insiste et, postée devant lui, lui secoue les épaules. De loin, sur le pas de sa porte, Madame Ophélie lui fait un signe.
Chut,
lui dit-elle, un doigt posé sur les lèvres. Alors, en soufflant dans le creux de sa main, l'enfant lui adresse un baiser.
Les questions que lui a posées sa mère, il les a déjà oubliées. Dans sa tête, il a fait ce qu'il devait faire. Et c'est bien là l'essentiel, parce que le Rudbeckia, c'est l'homme gris qui l'a voulu. Il l'a voulu plutôt que les sous. L'enfant n'a pas compris.
« La vie est ainsi, » a dit l'homme. « Plus tard, tu comprendras. Rends les sous à ta maman. »
Sur les pièces, il a replié les doigts de l'enfant. Et maintenant, debout sur le bord du trottoir, avant de traverser la rue Belgrand, l'enfant regarde à droite, puis à gauche, du côté de Madame Ophélie, qu'il reverra bientôt, c'est promis, puis du côté de l'homme gris couleur de poussière, qu'il imagine assis quelque part, son chien aimant, tout contre lui. Puis il entreprend de traverser. « Tu viens, maman ?» dit-il en lui tendant le bras. Elle lui sourit. Elle ferme son porte-monnaie. « Oui, mon chéri, j'arrive. J'arrive. »
Les gens qu'on ne regarde pas sont des trésors oubliés. Il y avait tant de choses en toi et peu de gens pour les aimer. Moi je garde nos images que je regarde souvent. Avant de tourner la page, faut le vouloir finalement et demain. Je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Les gens qu'on ne regarde pas sont des livres jamais lus. Moi j'ai vu au fond de toi un vieux roman qui m'a plu. T'étais pas parfait peut-être, mais tout est à l'imparfait maintenant. Tu es de ceux qu'on regrette, parfois génial, parfois gênant. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Vagabond errant, une feuille dans le vent, j'étais qu'un demi-moi avant toi, avant toi, avant toi, avant toi, et demain. Je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi, je ne voyais rien.
Merci pour ça, un titre extrait de N'attendons pas, le tout dernier album de Vianney, sorti le 30 octobre, un titre largement inspiré de sa rencontre alors qu'il participait à la distribution de repas par une association, rencontre avec
Karim, un sans-abri Karim avec lequel s'est nouée, au fil du temps, une relation d'amitié profonde et toujours vivace 8 ans après. Et selon l'artiste, Karim, un homme libre, un grand monsieur par sa richesse de cœur, son humanité, sa culture et son originalité. Autant de traits qu'il partage avec le personnage décrit par Gérard Glatt dans la nouvelle de ce soir, 1,90€. La plume est à vous, c'est terminé pour ce soir. Je remercie Frédéric Guyon, toujours fidèle à la réalisation. Je vous retrouve dimanche prochain à cette même heure dans La plume est à vous. Excellente semaine sur Bretagne 5, à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.